Aujourd'hui, à Rencontre, il sera question, c'est une émission spéciale, il sera question de Dieu. Comment peut-on ne pas croire en Dieu? Je veux faire une émission avec beaucoup de respect à l'égard de mes amis qui n'y croient pas. Mais je voudrais aussi essayer de traiter la question sur l'aspect de la difficulté qu'il y a aujourd'hui de croire en Dieu. Et je m'inspire de ça, pour ça, d'une publication de Droguet et Ardent, parue il y a déjà peut-être une vingtaine d'années, et qui est excellent. C'est Au risque de croire, c'est le tome 3, La difficulté de Dieu. C'est un texte de Jacques Lacour, avec la collaboration du merveilleux Jean-Luc Marion, des hommes d'une très grande intelligence. Le problème, au fond, aujourd'hui, c'est que Dieu est devenu incroyable pour de nombreux et brillants esprits, oui. Nous, les chrétiens, pour la plupart des auditeurs sont chrétiens, n'est-ce pas, nous sentons particulièrement liés dans notre foi par étrange phénomène massif de l'incroyance. Autrefois, il n'y avait que quelques rares personnes qui ne croyaient pas. Maintenant, c'est une assez grande proportion des gens, du moins, qui prétendent ne pas croire, à tout le moins. Et c'est lié à la crise actuelle de la culture. Les parents sont très surpris de voir que leurs enfants ne croient pas. Des étudiants croyants sont surpris par leurs camarades qui ne croient pas. Les prêtres sont bouleversés dans leur cœur de prêtres devant des laïcs qui se présentent à eux très gentiment, souvent, ou avec une certaine haine, parfois malheureusement, et qui ne croient pas. On éprouve le besoin de vérifier les fondements de ce que nous croyons, tant vis-à-vis de la critique contemporaine que du refus pratique de Dieu, de beaucoup de nos concitoyens, il faut bien vérifier. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste dans cette fin du XXe siècle à la mort de Dieu, comme on l'a souvent dit il y a une vingtaine d'années? Oh, il y avait l'abbé Laurentin qui a publié d'ailleurs un très bon livre, petit livre, dans la collection Le Point, point 2, Dieu est-il mort? Et c'était très bien fait, très très bien fait. Et Gustave Martelet, un jésuite, vient de publier il y a quelques jours, chez Mediapol, vous le verrez aussi aux éditions du Cerf, chez Mediapol, au Salon du Livre si vous y allez, Évolution et création, le tome 1, le sens ou non-sens de l'homme dans la nature. Est-ce qu'il y a un sens? Et le père Gustave Martelet a écrit un livre philosophique très bien fait. Pas facile à lire, mais extrêmement bien fait. Devant donc ces interrogations, si la mort de Dieu est là pour toujours, il y a trois attitudes qui sont nécessaires. C'est d'abord d'écouter loyalement ce que ces gens ont à nous dire, nos frères, nos enfants, nos compatriotes. Puis il faut essayer de comprendre les raisons de l'athéisme, se demander ensuite si ce que les hommes appellent Dieu, est-ce que c'est capable de satisfaire les exigences de la raison? Est-ce que le Dieu auquel ils ne pas croire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Faut voir aussi peut-être les aspirations de leur cœur. Puis, il faudrait fournir, nous de notre part, des raisons de vivre. En poursuivant cette recherche sur des sentiers plus ardus, là, faut s'interroger aussi si l'on peut aujourd'hui encore recevoir de ce Dieu qui appelle les hommes, car Dieu nous appelle, moi c'est le sentiment que j'ai, hein. Si il faut recevoir de ce Dieu les réponses aux questions fondamentales de la condition humaine qui concernent sa vie, sa souffrance, sa mort, ça vaut la peine. Est-ce que Dieu a un avenir? Est-ce que Dieu a un avenir? Mais oui! En une époque qui enregistre pêle-mêle l'invasion de la drogue, la poursuite de la criminalité, c'est terrible avec ce procès de Môme Boucher, quelle horreur, et toutes ces choses épouvantables qui nous entourent et qui sont partout à la surface de la Terre, puis l'étalage de l'érotisme, même dans les abribus, c'est inconcevable, c'est partout. Et la montée de la violence, beaucoup de violence à l'égard des femmes, c'est terrible. à l'égard des enfants. Alors, quand on regarde ça, si on est réaliste, on voit bien que les sociétés industrialisées sont prises dans un phénomène énorme de l'incroyance. Bien que certains intellectuels, des romanciers, des journalistes affirment périodiquement l'existence d'un dieu qu'ils ont personnellement rencontré, comme Frossard l'a fait, qui est décédé il y a 2 ans, mais la lecture impartiale de la réalité sociologique conduit à constater 2 faits. D'abord, la crise qui affecte toutes les confessions religieuses. Il n'y a pas que nous ici au Québec, puis notre Église catholique, c'est toutes les confessions religieuses, hein, mais en particulier la foi catholique. Ce mal des églises contemporaines semble se manifester, évidemment, par une immense baisse de la pratique religieuse. Puis, il y a très peu de vocations maintenant. Vocations religieuses, j'entends, évidemment. Vocations sacerdoces. Il y a de graves difficultés internes. Alors, on fait des synodes, des réunions. On se demande quoi faire. Au Québec, par exemple, on peut dire que 4 catholiques sur 5 ont cessé de fréquenter l'Église sérieusement entre 1950, disons, et 1998. Oui, 4 catholiques sur 5. Et peut-être plus. Peut-être 4,5. Si on peut dire. Ou 9 sur 10, quoi. Et l'affirmation de la mort de Dieu, mais d'abord lancée par des intellectuels au 19e siècle, ça progressivement atteint de larges secteurs du public. Aussi, ce qui surprend nos jours, est-ce que c'est pas l'incroyance? Non. C'est la foi, maintenant, qui est surprenante. On se sent seul, presque. L'inexistence de Dieu dans nos sociétés avancées, ça ne semble plus traumatiser les esprits. Bah, on a pris son parti de l'absence de Dieu. C'est ainsi qu'on s'est peu à peu familiarisé avec des formules telles que celle de Sartre, bon, il y a 30 ans, Dieu sais-tu. Et puis, décomposition du christianisme, on lit ça. Athéisme post-chrétien. Dieu n'en finit pas de mourir. Tout ça, c'est un relent fétide de pourriture et de mort, à mon avis. Satan a établi des sentiments terribles dans le cœur de l'homme. On comprend que le pape Paul VI, au cours du Concile Vatican II, a pu voir dans l'athéisme le phénomène le plus grave de notre temps, c'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai, c'est le plus grave, les phénomènes de notre temps. Quelle sera donc, dans ce contexte, l'attitude véritable des chrétiens envers ceux qui nient Dieu? Il ne faut pas refuser, d'une façon incompréhensible, comme si on ne comprenait rien à ce qu'ils disent. Il ne faut pas non plus être complaisant. Il faut pas mépriser, il faut dialoguer loyalement, puis avec lucidité, je dirais, avec amour, je regrette d'utiliser encore ce mot, mais oui, avec amour. Ils essaieront de se mettre respectueusement, me semble, les chrétiens, à l'écoute de ceux qui ne partagent pas leur foi. Comprendre est un mot chargé d'amitié, hein? Il faudrait percevoir les causes et les raisons de l'athéisme contemporain, sa force et sa grandeur même, peut-être. Parce qu'ils refusent des dieux qu'on leur présente et qui ne sont pas le vrai Dieu. Nous sommes très maladroits. J'entends des choses épouvantables, même sous la plume de gens qui sont plutôt responsables. Le verglas, c'est Dieu qui nous punit. Dieu punit le Québec, il envoie le verglas. Mais c'est épouvantable de dire des choses comme ça, c'est effrayant. Ah, il y a les limites à l'athéisme aussi, il y a des faiblesses. Alors, il faut être lucide, il faut purifier notre foi, il faut éprouver la solidité des fondements de notre foi, parce que la foi veut l'intelligence. La foi se livre à sa vérification, car Dieu n'est pas déraison, Dieu n'est pas malade, Dieu est démesure. Il dépasse notre intelligence, mais il faut être capable d'intelliger quand même. La déchristianisation, la diffusion galopante de l'incroyance sont moins les causes du mal des églises que les révélateurs d'un mal bien plus profond. C'est celui de la société contemporaine en crise de civilisation. Les religions modernes, là, elle a une histoire, cependant, on peut tenter de la brosser, fut un temps On n'était guère en doute en Occident l'existence de Dieu. Le christianisme était la religion officielle depuis le 4e siècle, sous Constantin. Elle s'était répandue. Le monde moderne est né, on le sait, au 16e siècle à la Renaissance. Oh, il peut se caractériser par l'apparition à la place du monde médiéval, du Moyen-Âge, qui était un monde sacré, d'un monde, disons, profane, laïque. Il y a eu l'affaire Galilée. Au XVIIe siècle, les athées sont essentiellement les libertins. On n'était pas d'ailleurs athées impunément, sans risque aussi. Hein? Puis tout à coup, au XVIIIe siècle, en Europe, c'est le règne de la tolérance. On a le courage d'affirmer ouvertement ce qu'on pense, puis l'athéisme passe de la clandestinité à la place publique en Europe. Il se fera un chemin, il s'affiche militant. Alors, on rejette ce dieu tyran à qui tout est permis, qui est perçu comme étant au service d'un pouvoir politique. Dieu sert le roi et les exploiteurs. Alors on n'en veut pas. La religion perd du terrain, surtout chez les intellectuels. Il y a des révolutions successives qui écartent l'Église du pouvoir temporel. Au 19e siècle, toujours en Europe, il y a un phénomène nouveau qui se produit, c'est l'athéisme qui gagne progressivement dans toutes sortes de coins de l'Europe les masses populaires les plus pauvres. Il trouve en même temps ses maîtres à penser, puis la religion se voit même rejetée comme socialement nuisible. Hein? On dit « Dieu, voilà l'ennemi ». On ose écrire des choses comme ça. Ça se dit encore aujourd'hui ici. Une réaction s'opère donc contre une Église de plus en plus nettement située du côté de la bourgeoisie, puis une entente cordiale qui se noue entre le prolétariat, les gens les plus simples, les ouvriers, puis l'athéisme. Et on s'oriente vers un humanisme sans Dieu. Puis au 20e siècle, le phénomène de sécularisation s'amplifie, surtout ici au Québec, ça s'est fait très très vite. Puis les réalités de la vie humaine, les réalités qui constituent la vie humaine, politique, sociale, culturelle, scientifique, tout ça sont imprégnées d'athéisme et tendent à s'établir dans une autonomie toujours plus grande par rapport aux normes. Alors, le christianisme cesse d'avoir le monopole du sens ultime de la vie, constitue plus qu'un pôle de référence parmi d'autres, quand il s'agit de voies éthiques. Et on le voit de nos jours pour les questions de divorce. C'est pas le christianisme qui décide de ces choses-là. L'avortement non plus. Ici, au Canada, le gouvernement de M. Chrétien permet l'avortement jusqu'au dernier jour. C'est épouvantable. L'euthanasie, qui devient de plus en plus acceptée. Alors, on voit de plus en plus des gens remarquables parmi nous qui se suicident. Ils ont 65 ans, 70 ans, ils n'en peuvent plus. Puis la sexualité, elle est débordante. Et ce phénomène d'autonomie des réalités humaines par rapport à la religion atteint les chrétiens de plein fouet. Nous sommes tous atteints, malheureusement. Et la présence massive de l'athéisme, théorique ou pratique, c'est un défi pour nous, les croyants. Nous allons réfléchir à ça tout à l'heure. Alors, je vous ai dit que la présence massive de l'athéisme, c'est un défi pour les croyants, pour deux raisons. D'une part, parce que cet athéisme, il a quitté la sphère des intellectuels. C'est plus rien que dans les universités, dans les grands cours, dans les grands bouquins. C'est devenu un mouvement de masse. Et d'autre part, parce que ce mouvement n'est pas seulement content de nier les preuves de l'existence de Dieu. Il se présente comme une réponse au problème de l'homme. Une réponse, oui. C'est devenu une foi pour eux autres, humaine, souvent dynamique même, militante. Ils s'investissent dans toutes sortes d'actions de type caritatif. Ils investissent de leur action tous les niveaux de la culture et de la vie. Ils prétendent que les écoles seront meilleures, que tout sera meilleur, hein? Sans Dieu. Ils opposent au christianisme leur propre vision globale de l'homme et du monde. Ils se présentent comme source de libération aussi. Ils disent dans l'avenir, l'homme sera libéré de Dieu, c'est-à-dire de la peur. Oh, cette peur de Dieu, cette angoisse. Sans religion, il n'y aura plus de fanatisme. Hein? Oui, ils se disent ça. Il n'y aurait plus d'hypocrisie, ni d'obscurantisme. Oui, ils osent affirmer ça, c'est curieux. L'homme sans Dieu pourra se créer lui-même, inventer ses valeurs, supprimer l'oppression, puis aimer librement. Faut savoir interpréter cette nouvelle situation historique, hein. C'est un signe des temps. Oh, Dieu. Ce monde sécularisé, où l'homme est son propre maître, est-ce qu'ils vont, ça va achever la mort de Dieu, là? Ce processus? Ou bien cette fin du 20e siècle, est-ce que ça va être au contraire la chance d'un christianisme plus authentique? Ça dépend de nous, chrétiens. Est-ce que ça va être le temps d'un nouvel essor, d'une église évangélique au service de la cité séculière? Voilà le problème. L'athéisme nie Dieu au nom de la grandeur de l'homme. C'est l'humanisme athée qui est mis éminemment en relief par les écrits de Jean-Paul Sartre, d'un Albert Camus, dont je vous parlerai le 5 janvier, ou d'un Merleau-Ponty que j'étudie à l'université. Je passe là-dessus parce que, pour eux, la foi en l'homme tend à devenir, chez ces auteurs, quoi, une foi sans Dieu. Et l'athéisme est perçu comme la source de la liberté, quoi. Il faut être athée pour être libre. Pour nombre d'athées, la foi religieuse appartient à un stade dépassé de l'évolution de l'être humain. Dieu n'explique plus rien, disent-ils. Il est lui-même expliqué. Bah, la science explique tout. Ce n'est plus lui qui nous instruit sur l'homme, c'est l'étude de l'homme qui nous renseigne sur Dieu. Dieu recule donc à mesure qu'avance la science, croit-il. Voyons. Pour un grand nombre de nos contemporains, qui ne sont pas nécessairement des savants, une seule forme de connaissance paraît aujourd'hui valable. C'est quoi? Il demande la connaissance scientifique. Pourtant, la connaissance scientifique ne fait que constater des phénomènes. Ça ne nous apprend rien, à mon avis, ou presque. Si ce n'est que la science peut nous révéler l'existence de Dieu et nous dire comment nous conduire. La seule réalité pour les athées, c'est celle que les sens font apparaître et peuvent contrôler. Dieu ne peut être saisi en direct par la méthode expérimentale, alors là, il est hors du champ de l'expérience et on ne peut pas l'expérimenter scientifiquement, on ne peut donc pas le prouver, puis il ne sert à rien. Il y a les courants issus de Freud, puis de Nietzsche. Ce courant entretient la conviction du caractère illusoire des phénomènes religieux. Pour eux, Dieu est un produit de l'imagination, ça vient du désir. Bah, ce n'est pas Dieu qui crée l'homme, c'est l'homme qui crée les dieux, disent-ils. Il y a eu Marx aussi, ses successeurs, il y en a encore. C'est une dangereuse illusion que la foi en Dieu d'après eux, puis il faut combattre la religion, donc. Ils l'ont fait aussi. Voyez ce que ça a donné en Russie? C'est rempli de bandes de mafiosi et puis de... Oh, tout épouvantable. C'est terrible ce qui se passe en Russie. Mais heureusement, il y a un retour partiel à la religion vivante et vécue. Alors pour Marx et pour les marxistes, il fallait combattre, puis il faut toujours en Russie, en Chine, combattre la religion, parce qu'elle est un frein. Pour la volonté. L'homme qui croit ne veut plus, il se laisse faire. Alors, parce que la religion organise l'évasion vers un monde imaginaire, au lieu de devenir un ferment de combat révolutionnaire contre toute injustice. Mais regardez à Montréal, qui combat contre l'injustice, ce sont souvent des chrétiens. Je vais vous faire une émission sur l'accueil Bonneau. On dira, bah, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est pas vrai. C'est bien plus que ça. Quel structuraliste, puis pour notre logologue Lévi-Strauss que j'ai déjà rencontré, la distinction entre l'humain puis le naturel doit aller en s'atténuant, dit-il. Je me souviens, il me disait, vous voyez, M. Bourgogne-Champagne, ce petit tas de poussière dans le coin du studio, là, mais il n'y a pas de différence entre ce petit tas de poussière et nous. Nous ne sommes que de la poussière. Il ne croyait pas en Dieu, puis il ne croyait pas que sa poussière pensait, parlait et pouvait prier. Il n'avait pas cette idée. Lévi-Strauss, étrange. Or, le structuralisme sonne le glas de l'homme, tout autant que celui de Dieu. Devant ce problème du mal, devant tous ces types d'incroyances, faut bien se rendre compte que tout le monde constate que la vie est un tissu de souffrance et d'échecs. Nos journaux en sont pleins. Le scandale des scandales, c'est la souffrance des enfants. Ça révoltait Camus dans La Peste, Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Difficile problème du mal. L'homme ne sait pas le résoudre. Il veut absolument rejeter la responsabilité du mal sur quelqu'un d'autre, et notamment sur Dieu. Est-ce que c'est pas lui, là, le créateur du monde? Dieu n'a pas empêché le mal. Il n'empêche pas le mal. Donc, il est responsable, s'il existe. L'Église catholique est spécialement visée par ces athées-là. Souvent, ils ont une allergie à notre égard. Ils voient l'Église chargée de maux qu'un homme moderne ne saurait supporter. L'obscurantisme, le mépris de la femme et de la sexualité, une attitude dominatrice, inquisitoriale, une alliance avec les puissances d'argent. Pour eux, l'Église est conservatrice d'un ordre injuste. Alors l'athée dit comme Diderot il y a des siècles, la seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Ou Prévert qui dit Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Terrible, terrible. Dieu passe donc en jugement. Et les grands ténors de l'athéisme d'hier et d'aujourd'hui ont fait entendre leur voix puissante. Mais qui est l'accusé? Qui est l'accusé? Le Dieu, le véritable, est-il ce grand fabricateur de l'univers, négateur de la liberté humaine? C'est ça, Dieu? Mais non. Eux, ils pensent ça. C'est un législateur tyrannique d'un ordre injuste, un bouche-trou de nos ignorants scientifiques. C'est un endormeur des énergies humaines, disent-ils. Mais c'est pas à Dieu qui s'adresse finalement. Ce Dieu n'existe pas. Pour eux, cet être suprême produit de nos désirs et de nos angoisses, un magicien faiseur de prodiges. Mais vous vous êtes trompé de Dieu, monsieur. Vous accusez un Dieu qui n'existe pas. Visez-vous le modèle ou ses contrefaçons? À moins que vos efforts ne servent plus à rien si Dieu est une affaire classée. Un glissement s'opère en effet de nos jours depuis un athéisme théorique négateur de Dieu vers une espèce d'agnosticisme aujourd'hui, ainsi d'agnosticisme, une absence d'opinion. Les gens sont fatigués de lutter contre Dieu, alors ça les intéresse plus. On ne livre plus de guerre ouverte à Dieu, on vit comme s'il n'existait pas. C'est Françoise Sagan, la romancière, qui disait « Dieu, je n'y pense jamais ». Elle avouait ça tranquillement. Et c'est pourtant Camus qui disait, je vous en parlerai le 5 janvier, là, « J'ai conscience du sacré, du mystère qu'il y a en l'homme, et je ne vois pas pourquoi je n'avouerai pas l'émotion que je ressens devant le Christ et son enseignement ». Je crains malheureusement que dans certains milieux, en Europe particulièrement, dit Camus, l'aveu d'une ignorance ou d'une limite à la connaissance de l'homme, le respect du sacré, n'apparaisse comme des faiblesses. Si ce sont des faiblesses, eh bien je les assume avec force. Je n'ai que respect et vénération devant la personne du Christ et devant son histoire, mais je n'arrive pas à croire en sa résurrection.
Est-ce qu'on peut croire vraiment en Dieu? Beaucoup de gens disent que c'est plus possible. Mais comme j'ai insinué, là, peut-être qu'il y a une erreur sur la personne. Karl Marx, Nietzsche, Freud, etc. ont donné toutes sortes de représentations de Dieu. Mais est-ce que sont pertinentes, ces représentations de Dieu? Ces soupçonneurs, est-ce qu'ils sont au-dessus de tout soupçon? Freud, par exemple, son Dieu n'est que la projection d'un père magnifié qui joue le double rôle de tyran puis de protecteur. Freud, athée, n'a pas compris le sens de la foi chrétienne. Le névrosé est à ses yeux un angoissé en mal de relation avec ses parents. Le névrosé, c'est un enfant dominé par le père. Tel n'est pas pourtant le chrétien véritable. Non. Son Dieu au vrai chrétien, le Père de Jésus-Christ, est amour. Oh, je ne cesse de vous le dire. Gratuité. Oui, Dieu est gratuité. Il est don. Il est pardon. Il est source de liberté. La foi ne maintient pas dans la peur. Comment peut-on avoir peur quand on se présente à l'Église devant Dieu et que l'on reçoit le corps vivant de son Fils, éternel? L'angoisse, le sentiment de culpabilité, c'est pas ça la foi. Loin de laisser dans l'infantilisme, la foi cherche à rendre adultes nos capacités d'aimer. Consolation, certes, la foi, c'est sûr. La religion chrétienne est surtout exigence d'amour plus que consolation. L'engagement chrétien au service de Dieu puis des hommes n'a rien du comportement d'un névrosé. Je vous parle de tous les jours de ces gens merveilleux qui ont vécu ces choses-là. Est-ce assez clair? Il est le dynamisme d'amour d'un être adulte. Suivre Jésus-Christ consiste à devenir plus authentiquement homme, et dès lors, est-ce qu'il faudrait pas mettre la psychanalyse au risque de l'Évangile? La psychanalyse. Le Dieu qui est à la base de l'idée de Nietzsche. La religion, est-il plus digne d'adoration? La religion chrétienne, prétend le philosophe Nietzsche et les autres, est une religion d'esclaves, à base de ressentiment. Il prétend que la religion béatifie l'échec. C'est tout le contraire. Nous béatifions la réussite, la vraie. Celle des réalités qui ne se voient pas. Il est exact de dire que l'Église a moins souligné l'amour quand elle était prospère. Ça, c'est vrai. Ça dure encore un peu dans notre Église. Pourtant, nous avons l'enseignement des saints à travers les siècles et les siècles, et en particulier celui de Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans l'Église, je serai l'amour. L'humilité de la condition de l'Église aujourd'hui présente ne fait que la ramener à l'essentiel. Notre Église se ramène à l'essentiel, c'est le service humble et désintéressé des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Mais la faiblesse, c'est l'occasion d'une redécouverte des sources. L'Église retrouve ses sources, et non l'origine d'une espèce de projection psychanalytique, comme le voulait Nietzsche. Non, le ressentiment chrétien a pu exister, oui, mais il contredit formellement l'attitude du Christ, qui a parlé, lui, en termes de béatitude. Jésus, il a tablé sur toutes les formes du désir, avoir, valoir, pouvoir, épouser, pour composer ses paraboles. C'est si beau. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je le ferai un jour. Le christianisme n'est pas la religion des âmes viles, non. Oh, je sais bien qu'on nous accuse d'être viles. Moi, le premier. Une femme qui m'écrit pour m'accuser de tous les maux de la terre. Tout y respire la paix dans le christianisme, l'équilibre. Le ressentiment, ça n'existait pas dans l'Église primitive, qui était pleine de santé, de courage tranquille au milieu même des persécutions. Il ne faudrait pas pour autant justifier théologiquement la pauvreté, par exemple, en faisant d'elle un état voulu par Dieu. Non, ce n'est pas un état voulu par Dieu, la pauvreté. Que ce serait un ordre providentiel, comme on dit, à ne pas bouleverser, il faudrait laisser ça comme ça, ben voyons. Que l'on se rappelle les invectives de Jésus et des prophètes contre les injustices de leur temps. Jésus a béatifié les pauvres, mais non la pauvreté. Bienheureux les pauvres, il n'a pas dit bienheureux la pauvreté. La misère du monde est un cri poussé vers le ciel, qui appelle à l'action. Dieu veut qu'on agisse. Il nous appelle à transformer le monde. Comment pourrait-on prétendre aimer un Dieu qu'on ne voit pas et laisser dans le dénuement un frère humain que l'on voit, hein? C'est dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4. Le royaume de Dieu n'est pas destiné à un arrière-monde. Il est au milieu des hommes, le royaume de Dieu, puis se construit avec eux et par eux, sans lâcheté. L'amour effectif, c'est l'expression puis la vérification de la foi. Le Dieu que Marx conçoit et récuse est tout aussi monstrueux que celui de Nietzsche ou de Freud. Et en réalité, il n'y a jamais eu, chez lui, chez Marx, de crise proprement religieuse qui l'aurait conduit à l'athéisme, même s'il était séminariste orthodoxe. Dès ses jeunes années, il paraît éloigné de toute préoccupation concernant la religion. Et ce qui se caractérise, par contre, est une soif d'indépendance qui est le trait le plus profond de son caractère. C'est des poèmes. Je m'excuse au sujet du séminariste orthodoxe. C'est Staline qui était séminariste orthodoxe. Pardon, je m'excuse. Des poèmes de jeunesse chez Marx manifestent cette volonté d'être lui-même. Il se sent déjà l'égal du Créateur, écrit-il. C'est absolument invraisemblable, invraisemblable. Et Dieu étant supprimé, il ne reste que la matière. Parce que si c'est pas Dieu, il n'y a que la matière éternelle. Dieu est inutile. C'est Lénine qui disait déjà que l'idée d'un pur esprit créateur de l'univers n'a pas de sens. Comment peut-on affirmer des choses pareilles? Vous savez que c'est un chanoine Georges Lemaître, qui a défini de façon claire, là, en 1931, ça avait commencé en 1922, mais en 1931, il a défini que l'origine du monde, le premier instant de cet univers, c'est le Big Bang. C'est un prêtre qui disait sa messe tous les jours. Mais avant le Big Bang, il n'y avait rien. C'est une création à partir de rien. Dieu crée la matière à partir de rien. La science nous le montre. À moins que le monde soit un monde en expansion et qu'il se retourne à la masse première pour réexploser comme ça perpétuellement pendant l'éternité. Mais l'éternité de la matière, ça ne tient pas non plus. Affirmer que la matière est en elle-même sa raison d'être, c'est lui attribuer un caractère qui dépasse les données de l'expérience. Alors chacun se façonne son propre Dieu. C'est Pascal, Blaise Pascal, dont je vous ai parlé quelques fois, qui le disait déjà. Hein. La question concerne aussi bien les marxistes que les chrétiens. Un Dieu tyran, maître absolu, pensait Marx. Demandons-nous d'où cette conception a pu lui venir. Hein. Peut-être d'une interprétation erronée de certains textes bibliques, de l'enseignement d'un certain type de christianisme à son époque, peut-être. Et de nos jours, l'image du Dieu Père Noël est tout aussi fausse qu'aliénante. En somme, les dieux, avec un petit D, là, les dieux de Freud, de Nietzsche, de Marx, sont des imaginations. C'est des produits humains. C'est le fruit d'élaborations philosophiques savantes, d'accord et subtiles, mais c'est limité. Ce sont des inventions humaines, et leur création s'explique par le contexte familial, on pourrait dire social, culturel, économique, politique et religieux de ces gens-là, et de tous les autres. Les ont conçus. Ces représentations philosophiques sont des idoles conceptuelles. Ça vient de leur des idées. C'est taillé, on pourrait dire, ces idoles-là, dans le matériau mental de leurs artisans. C'est pas des idoles en matière comme les idolâtres en avaient, c'est des idoles imaginaires. L'athéisme ne réfute donc qu'une conception discutable de Dieu. Le Dieu dont Jésus-Christ est la figure, car sa chance, il me semble, de nos jours, car le Dieu de Jésus-Christ reste croyable, alors que les idoles freudiennes, nichéennes et marxistes s'en vont et disparaissent, faute de croyants et d'adorateurs. Les athées tombent dans l'agnosticisme et l'indifférence. Et c'est à nous, chrétiens, de témoigner. Il n'est que d'ouvrir les yeux sur le monde, on y voit d'une part les conséquences de l'humanisme sans Dieu, puis d'autre part les signes avant-coureurs du retour de Dieu. Le mal est très profond. Les sociétés se sont expressément construites sur le refus théorique de Dieu. Ce sont des sociétés, on l'a bien vu dans ce siècle-ci, qui ont sacrifié à un moment ou à un autre de leur histoire l'être humain. Ils ont sacrifié la pensée, la liberté de l'être humain, son bien-être, sa vie même. Il suffit d'ouvrir les pages de l'histoire de son jour. Sans aucun parti pris politique, là, je ne veux pas avoir de parti pris. L'athéisme de Nietzsche a inventé quoi? L'athéisme raciste des maîtres allemands du national-socialisme. La volonté de puissance est transformée en volonté de domination et d'extermination. En fait, le surhomme de Nietzsche est devenu en Allemagne un sous-homme. Et la disparition de Dieu était censée promouvoir le règne de la liberté de l'homme et de tous les hommes. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans l'Europe de l'Est? Au nom d'une véritable pseudo-foi marxiste, on a sacrifié l'être humain. Dans sa pensée d'abord, vous, souvenez-vous, les dissidents intellectuels ont été soumis à une rééducation dans les hôpitaux psychiatriques comme malades mentaux. Souvenez-vous de l'archipel du Goulag? De Solzhenitsyn, ceux qui professent ouvertement leur foi là-bas ont été soumis à toutes sortes de tracasseries aliénantes. C'est effrayant. L'Inquisition espagnole, d'accord, avait fait, en quelques 6 siècles, d'autres 10, 4, quelques milliers de victimes. Il y en a qui vont jusqu'à 100 000. Mais je sais, d'après les spécialistes de la question, que l'Inquisition espagnole a fait moins de victimes que ça, peut-être 10 000. Mais c'est trop, de toute façon. Une victime, c'est trop. Mais combien de dizaines de millions, je dis bien, en a tué Staline? Solzhenitsyn estime qu'il y avait jusqu'à 1,5 million de personnes dans les camps soviétiques qui souffraient le martyre. Pensez à la révolution des Khmers rouges, qui a sacrifié, dit-on, 1,5 million à 2 millions de personnes. Pol Pot. Terrible. Le génocide du peuple cambodgien, les massacres d'enfants africains, les tortures dans les prisons de l'Est et de l'Ouest, les exploitations sociales, la non-assistance de pays sous-développés en danger. Là, on commence à comprendre un peu, là. Vous savez qu'il y a des années où il y a 30 millions d'enfants qui meurent, sans compter ceux que l'on tue, le non-respect de la vie dans le sein maternel, tous ces avortements, sans nombre. C'est impossible de mesurer tout ça. Les prises d'otages, la montée de la criminalité, tout ça, ça a sa source dans la mort de Dieu. C'est-à-dire l'abandon des valeurs dont Dieu est le fondement. Et qui a plus d'amour pour l'homme que le Dieu fait homme? On peut nier aussi que la Chine, aujourd'hui farouchement athée et marxiste, a exterminé, on pense, environ 100 millions de personnes. C'est un lourd prix à payer. C'est épouvantable. La foi, à quoi ça sert, dit-on? La foi ne sert à rien. Moi, je vous dirais qu'elle change tout. À la manière de l'amour, elle relève de l'être et non de l'avoir. Hein? La foi, elle aide à être plus, sinon à avoir davantage. Dieu n'est pas rentable, d'accord, il ne s'achète pas. Même si par un certain biais, la religion fait marcher le commerce. C'est lui qui donne, qui se donne. Ceux qui aiment le savent bien. Une femme qui reçoit une bague, c'est bien mieux qu'un aspirateur électrique. L'amour authentique est gratuit. Un mari déclare à sa femme « Je t'aime parce que tu m'es utile pour réussir ma carrière. » Voyons donc, jamais. La foi tient le langage du don. Dieu n'est pas un bouche-trou, une roue de secours ou un distributeur automatique de bienfaits. Non, il vaut par lui-même. Croire en lui, c'est croire en son amour. Seul l'amour est digne de foi, seul l'amour fait le poids, or l'amour change tout, il a transformé notre existence, disent les gens. Qui croit vraiment? La Bible a raison de prendre l'amour conjugal, d'ailleurs, comme le signe de l'amour de Dieu pour l'homme. On voit ça dans la Bible. Or l'originalité de la foi chrétienne, c'est précisément d'établir une relation aimante entre Jésus-Christ et le croyant. Et cette foi chrétienne s'avère, à mon avis, capable de transformer l'épaisseur de l'existence sous tous ses aspects, individuels, familiales, sociales, professionnels, partout. La conversion à Jésus-Christ bouleverse une vie de fond en comble. On n'est jamais quitte soi-même sur le plan de l'amour, car la mesure de l'amour est d'être sans mesure. La foi du simple point de vue humain, elle peut aider l'homme, sinon à réussir dans la vie, du moins à réussir sa vie. Réussir sa vie. La foi n'est pas une idéologie, mais elle permet de relativiser tous les choix humains. Et on s'aperçoit que toutes sortes de choix sont inutiles. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est vrai? La foi opère un tri dans les prétendues valeurs. Pas nécessairement pour les déprécier, mais pour les mettre à leur place de moyens. Il y a des choses, c'est simplement des moyens. Dieu seul devient l'absolu. Il est au cœur de tout. Dès le matin jusqu'au soir. Dès qu'on s'éveille la nuit, c'est Dieu. L'amour. La foi a une cohérence. Elle donne sens à l'existence, à la souffrance et à la mort. Vous en avez parlé de la mort le 2 novembre. Vous en avez déjà parlé aussi de la souffrance. J'ai donné le sens de l'existence. J'ai déjà fait des émissions sur toutes ces questions-là. La foi pousse à l'engagement et au don de soi pour la promotion de la dignité humaine. Regardez à travers la terre, c'est plein de gens pleins de foi. Ce ne sont pas des athées qu'on voit dans la jungle au Cameroun qui soignent les lépreux. Non. Je l'ai demandé au Cameroun s'il y avait des athées ou des agnostiques. Je les aurais interviewés. Il n'y en avait pas. La religion du Christ est porteuse de la plus radieuse espérance. Et l'espérance, au dire de Bernanos, je vous en ai déjà parlé de Bernanos, est la plus grande, la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme, hein, l'espérance. Désormais, pour qui aime Dieu, tout concourt à son bien, même ses péchés, si l'on se repent, évidemment. Ne vous découragez pas. pas de votre vie de péché si vous en avez eu une. Demandez pardon, repentons-nous. À quoi sert Dieu aujourd'hui? Il ne sert à rien qu'à être servi et aimé. Mais hors de lui, il ne serait-ce qu'on d'être des asservis à nous-mêmes et à nos idoles. C'est ça qui nous arrive quand on ne le sert pas. Ah, le Père et l'Esprit ne furent pas les spectateurs passifs du supplice du Fils, Jésus en croix. Le Père et l'Esprit, qui ne forment qu'un seul Dieu avec le Fils, ne peuvent qu'avoir souffert. De voir souffrir celui qu'on appelle le juste, avec un J majuscule. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller chercher ce qui était perdu et manifester à tous les hommes, à toutes les femmes, la longueur, la largeur, la profondeur du cœur de Dieu. Un amour vulnérable qui va jusqu'à la passion. Mais le vrai visage du Père, notre Dieu, c'est le même que celui du Fils, qui est le juste outragé, crucifié sur le bois. Voilà ici le solennel retournement de la révélation chrétienne. La première victime du mal, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Ce n'est pas le Fils, c'est le Père. Ici, le Christ nous dit qu'en face du mal, sous toutes ses formes, Dieu est plus crucifié que l'homme. Et que seule la mort de la croix pourra nous apprendre jusqu'où Dieu est possédé de cette passion d'amour pour nous. Quand vous regardez un Christ en croix, sachez que c'est le cri d'amour du Père pour nous. Une passion dévorante qui est même quelqu'un qui est l'Esprit Saint qui peut s'emparer de vous. Il nous transforme, l'Esprit Saint. Il nous guérit de tous nos maux. Dieu est en lui-même, dans sa réalité la plus profonde, blessé par notre mal. Sa réponse, ne pas se venger. Prendre sur lui la mort et le mal de celui qui souffre. Dieu atteint en personne par le mal, n'est qu'amour en face de lui. Ça me rappelle Annette des Hôtels, qui souffrant depuis des années sur son lit paralysé, gardait son sourire. On lui demandait pourquoi, comment elle faisait pour sourire, et elle disait « J'aime tellement le bon Dieu, et je suis si sûr qu'il m'aime. » Oui, la lance au bras du centurion, dit Claudel, a montré que la blessure au côté allait plus loin que le cœur du Christ. Cette blessure a ouvert Dieu. Elle a passé jusqu'au milieu même de la Trinité. L'homme obtient sa libération absolue en et par Jésus-Christ. Il est des vies qui ne s'expliquent pas sans référence à sa force libératrice. Regardez autour de vous les gens qui se donnent. Ils se donnent en Jésus-Christ. Ah, on peut toujours donner une explication naturelle à l'attitude héroïque d'un adulte. Oui, il y en a qui font ça. Mais comment rendre compte du courage extraordinaire des enfants handicapés, comme je les ai vus à Lourdes? C'est écrit sur une petite affiche qu'ils tiennent. Faites comme moi, souriez. Ils sont cloués sur leur fauteuil roulant. C'est tellement émouvant. Dieu existe. Son intervention est vérifiable dans l'histoire. Son existence pensable et expérimentable. Et la liberté qu'il donne aux hommes, en et par Jésus-Christ, son Fils. Et à la formule athée, « Oh, si Dieu existe, l'homme n'est pas libre. » Ben moi, je réponds dans l'esprit de la Bible, « Si Dieu existe, alors l'homme a les moyens d'être libre. » Et Dieu, en un sens, n'est plus libre car l'amour absolu, il peut tout sauf contraindre sa créature à l'aimer. Il ne nous contraint pas à aimer. Il nous aime. Et nous répondons dans la joie. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle et il disait, « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. » Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés, ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi, Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Oui, reconnaissons. Reconnaissons Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. Le riche est dépourvu, affamé, mais à la table du Seigneur, celui qui cherche Dieu ne manque de rien. Nous ne manquons de rien, nous sommes à la table du Seigneur. Nous avons tout quand Dieu nous possède et que nous avons Dieu en nous.